voudrais vous raconter l'histoire de la poésie. Bonjour. Ou plutôt, l'histoire d'un homme, d'un jeune homme. La poésie, il croit que ce n'est pas pour lui. Il croit qu'il faut savoir, qu'il faut avoir appris, avoir chez soi de vieux livres reliés dans la poche de sa veste en velours, un petit carnet de cuir. Il croit qu'il faut maîtriser les mots, connaître des mots compliqués et avoir en soi des choses complexes à faire sortir avec des mots compliqués. Et puis un jour, tout change. C'est un jour bizarre, un jour de désillusion, mais pas seulement. Il s'est pris un coup à l'ego, mais il ne l'a pas si mal pris. C'est comme un coup sur la tête qui l'a rendu plus présent. Et ce jour-là, il commence à voir, à regarder autour de lui. Ce petit crachin, finalement, n'est pas si dégueulasse que ça. C'est comme si le monde se mettait à flotter dans une lumière nouvelle, un peu irréelle. Il se sent bien, soudain. Dans les grandes villes, il ne fait jamais nuit. La nuit est jaune foncé, un jaune d'or et de pisse. La nuit est belle comme la rencontre fortuite d'un lampadaire et d'un nuage de pollution. Il ouvre enfin les yeux, attentif enfin, lui qui ne savait qu'être concentré ou déconcentré. Peut-être que la poésie commence là, dans l'attention la plus simple au monde, à soi-même, à ses sensations, à tout ce qui vibre au cœur de la présence, à tout ce qui vient à apparaître, ce qui surgit et se détache, nous fait signe peut-être, visible, sur le fond de l'invisible. Il ouvre les yeux, le monde est là, et lui aussi. Et puis il y a ce corps, son corps, il l'avait oublié. Nous ne savons pas ce que peut un corps, écrit Spinoza. Il n'a pas lu Spinoza, mais il est bien d'accord avec lui. Nous ne savons pas ce que peut un corps qui sent, perçoit, reçoit la vibration du monde. Et si c'était ça, la poésie? Recevoir la vibration du monde, que le corps s'en fasse la chambre d'écho et que les mots se mettent à vibrer, à danser, à s'embrasser, à faire l'amour comme des possédés, que les mots arrêtent de résonner, haïs, et qu'ils se mettent à résonner. Et si c'était un abandon, la poésie? Le contact avec plus grand que soi, avec autre que soi, qui rentre en soi et devient plus soi que soi. Il n'y a rien à savoir au fond, et ce qu'il y a au fond de moi, c'est peut-être enfin le monde qui prend toute la place. Les mots compliqués jamais ne délivreront le secret de la poésie, le secret de la disponibilité. Il se sent bien maintenant, tout à sa joie d'être enfin là. Sa disponibilité est une curiosité. Être disponible à ce que l'on n'attend pas. Et si c'était cela, la poésie? Pour en parler ce matin, de poésie dans la chanson et bien sûr dans la vie, j'ai la grande joie de recevoir le poète et chanteur Arthur H, qui nous a rejoint, un peu en retard et qui m'a bien fait peur, sous le soleil de Platon, pour nous aider à répondre à cette belle question. Une vie sans poésie est-elle possible?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Arthur H, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, très bien.
J'ai l'impression que vous avez voulu me montrer que la poésie, c'était de savoir accueillir l'imprévu.
Bien sûr, tout à fait. Et après, la théorie, il faut la pratique toujours.
C'est ça. Alors, je suis très heureux de vous recevoir. J'ai l'impression que vous apparaissez, vous vous présentez autant comme poète que comme chanteur, comme écrivain aussi. Et que pour vous, la poésie, c'est quand même d'accueillir quelque chose qui est là. C'est pas simplement de sortir ce qui serait en vous, mais d'accueillir ce qui est aussi à l'extérieur de vous.
Oui, c'est vrai qu'il y a un phénomène que je trouve vraiment très passionnant dans la poésie, c'est celui de disparaître. C'est-à-dire qu'on n'est pas, moi je suis pas trop dans l'idée d'exprimer quelque chose d'intime de moi-même, parce que je suis quand même pas vraiment intéressé par ça. Par contre, sentir le monde, effectivement, malheureusement, évidemment, toujours à travers mes propres sensations, mais...
Pourquoi malheureusement?
Non, parce qu'on a ses limites. On a ses propres limites, on est limité par nature, quoi. Mais la poésie est un des très beaux moyens, justement, de faire exploser un peu ses limites, c'est les explorer ailleurs que soi, quoi. Ça, c'est vraiment un moyen, je trouve, assez efficace, assez scientifique dans un sens, parce que ça marche, quoi.
Scientifique?
Ouais, c'est scientifique parce que je pense qu'on a une fausse image de la science comme quelque chose de très, très rationnel, enfin très collé au plancher, quoi. Alors la science, c'est aussi beaucoup d'intuition, de recherche, de découverte, comme ça, par, comme vous l'avez dit très justement, par l'inconnu, par la surprise. Donc il y a une sorte d'exploration méthodique comme ça, que de l'irrationnel, quoi, de l'imaginaire, que oui, ce que je qualifierais pardon quelque part de scientifique dans le côté sérieux du terme, quoi.
Ouais. Sérieux aussi au sens où l'émerveillement peut être sérieux finalement. On imagine, vous admirez des grands scientifiques?
Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. J'ai longtemps essayé. Enfin, j'ai pas essayé. J'ai lu des ouvrages de simplification de physique quantique parce que c'est vraiment génial, quoi. Ouais. Après, une fois que j'ai fermé le livre, j'oublie. Enfin, je peux le rappeler, peut-être le raconter le lendemain, mais le surlendemain, c'est pas assez adapté à mon cerveau. Mais par contre, la magie qu'il y a dans la physique quantique actuelle et ce que ça ouvre comme possibilité, je dirais aussi humaine, c'est vraiment merveilleux. Ouais, ouais, ouais.
Est-ce que vous diriez que la poésie est un contact? Et mais si oui, avec quoi?
Peut-être qu'il y a tellement de poésies différentes. Il y a la poésie de la langue, qui est une tentative, je pense, absolument nécessaire de libérer la langue de son côté manipulateur, son côté justement de réduire le monde à un soi-disant connu, quoi. Et puis aussi toute sa manipulation sociale, politique, la langue de bois, tout ça. Donc ça, c'est la poésie, c'est l'antidote à ça, quoi. C'est tout d'un coup, faites des grands signes. Ah, ouais.
Arthur Hache, ouais. Je vous ai un peu surpris en vous lançant directement ça, mais c'est parce que comment mieux en parler finalement, c'est ce que vous faites dans ce morceau incroyable, Prendre Corps, qui dure je crois 8 minutes, mais ouais, qui pourrait en durer je sais pas 50, et on voit ce que vous venez de dire au fond. Ça me fait un peu penser à ce que disait Mallarmé quand il dit il faut prendre les mots et les arracher aux mots de la tribu, arracher le sens des mots au mot de la tribu, ça veut dire ce que le sens des mots est habituellement dans son côté utilitaire, dans son côté social, et prendre les mots, pas nécessairement des mots compliqués, c'est ce que je disais au début, mais les entendre résonner de manière nouvelle. Alors vous racontez dans cette chanson que je trouve folle, d'ailleurs je suis venu ici en vélo et je l'ai écoutée non-stop pendant une demi-heure, je l'écoute depuis très longtemps cette chanson. Ouais. Bon, c'est quand même, on peut dire, un homme et une femme qui font l'amour, même si c'est aussi autre chose. Comment ça se passe quand vous faites ça, comment vous prenez ces mots comme ça dans un sens inhabituel? Vous êtes en contact avec quoi quand vous tentez ça?
Alors ça, c'est quand même un texte de Gerasim Lucas, c'est un poète juif roumain qui a été très marqué, je pense, par le mot, ce qu'il s'est tapé le fascisme pendant la guerre, avec tout le côté puritain, pudibond, comme ça, réglementaire du fascisme. Et après, il s'est taper le communisme avec tout le côté pudibond, réactionnaire du communisme aussi. Il s'est payé les deux. Après, je pense qu'il n'en pouvait plus, quoi. Du coup, il est venu en France et là, il s'est dit, je veux m'amuser avec la langue parce que la langue est un tel outil d'asservissement, quoi. Que faut vraiment. Et puis en plus, bon, comme c'était pas sa langue maternelle, il était assez libre de faire ce qu'il voulait. Puis ce qui est très beau dans Gerasim Lucas, c'est qu'on sent qu'il entend des choses de la langue que nous, on n'est pas capable d'entendre parce qu'on est trop habitué, quoi.
Exactement. Donc, vous jouez avec ces résonances multiples, mais peut-être aussi dans la manière de le mettre en musique, il s'agit aussi de faire entendre ce que lui n'entend même pas.
Peut-être, ouais, parce que c'est vrai qu'après, il y a encore autre chose. C'est-à-dire que le rapport extrêmement naturel et harmonieux entre la poésie et la musique, en tout cas entre certaines poésies et certaines musiques, et puis qui vraiment, là, est quelque chose de très ancien, quoi. Et que je pense que c'est engrammé dans nous, quoi. C'est engrammé dans les enfants, c'est quelque chose qu'on perd après, mais qu'on a tellement, en tant que race humaine, tellement pratiqué pendant tellement longtemps, Je pense que tous les textes sacrés, poétiques, mythologiques, que ce soit chez les Grecs ou les Africains ou les Français ou n'importe les Celtes, n'importe qui, cette poésie-là était chantonnée, quoi.
Ouais, vous voulez dire une poésie presque dans laquelle il s'agit de retrouver des vibrations premières, quelque chose d'un peu.
Ouais, voilà, la langue et la musique sont intimement liées, quoi, le langage et la musique. Donc quand on commence à psalmodier comme ça naturellement une poésie, il y a rien de plus. Enfin, c'est très satisfaisant parce que c'est très ancien et très naturel.
Est-ce que vous pensez que, au fond de tout, et c'est la thèse de Nietzsche d'ailleurs, que la vérité première, elle est faite de sons plus que d'images?
Oui, je le pense. Comme Nietzsche et moi, on pense que.
Que
le son, oui, parce que c'est une vibration qui est pas définie encore, qui est encore libre. La musique, c'est une onde qui est libre. Alors après, on va lui donner une forme, une limite et tout ça, mais à la base, c'est ça. Et je pense qu'on a le pouvoir de retourner à ça, de manière personnelle, intime, pour se régénérer, en fait.
Alors, est-ce qu'on peut y retourner vraiment? C'est-à-dire qu'en fait, ce que dit Nietzsche, je mets ma casquette de prof, ça ne durera pas longtemps, c'est qu'en fait, il y a deux sortes d'instincts qui se croisent. Il y a le dionysiaque, une sorte de vibration originelle, arythmique, monstrueuse, ivre, énorme, quoi, qui n'a pas de proportion et pas de rythme. Et puis, il y a l'apollinien, la mise en rythme, en structure. Et en fait, la musique, c'est toujours une expression apollinienne du dionysiaque. C'est-à-dire, au fond, une sorte de synthèse des deux. Mais du coup, on peut peut-être jamais revenir à cette vérité première, on la rate toujours un peu.
Oui, certainement, on peut pas revenir à une espèce d'énergie tellement primordiale, tellement basique, mais quelque part, un petit peu quand même, parce qu'elle est en nous. Alors, évidemment, on va pas se transformer en Dionysios immoral, que les femmes et les hommes vont se violer, se tuer en toute liberté, tout ça, c'est pas ça, mais c'est pas cette énergie-là, tellement chaotique, tout ça, mais par contre, je pense que des fois, on peut quand même la frôler, quoi, on peut la toucher dans une forme de transe, très musicale, d'ailleurs, je pense que sincèrement, plein de gens qui vont dans des concerts voir des musiques assez sauvages, c'est ce qu'ils cherchent en eux, je pense. Et puis aussi, ou dans le silence aussi. Dans le silence, c'est-à-dire que quand rien n'est enfermé, quoi, quand tout est libre, parce que on peut être en contact avec cette énergie-là.
C'est intéressant ce mot de contact. Ça peut être une belle expérience d'essayer de se demander, mais en fait, contact avec quoi? Qu'est-ce qu'on touche, quoi? La réponse de Bergson, je vous la soumets parce que j'aimerais bien avoir votre réaction, c'est qu'on touche, et vous avez employé le mot d'ailleurs, un élan vital, une énergie vitale, qui est au fond une force de créativité qui court dans tout le vivant. D'après Bergson, elle court aussi bien dans le lierre qui grimpe et contourne les obstacles que dans le cheval au galop, ou vous-même en train de composer et nous-mêmes en train d'être émus. Est-ce que ça vous parle, cette idée d'une énergie, d'un élan vital, au fond?
Alors, c'est pas que ça me parle, c'est exactement ce que je ressens, quoi. C'est évidemment très très bien dit. Je connais pas Bergson, mais oui, je pense que tout, même la société en général, même la société dans tout ce qu'elle a, disons, de rigide, même ça, c'est un phénomène naturel, quoi. Tout en fait, rien n'y échappe quelque part. Après, il y a le côté peut-être plus pur, plus inspirant, plus entre guillemets noble dans la poésie, par exemple, auquel on a envie de se connecter plus, mais le non noble, le trivial et tout ça en fait partie aussi, finalement.
Vous vous souvenez de votre première rencontre, au fond, avec la poésie? Premier choc?
Premier choc, je m'en souviens pas précisément, mais c'est quand même pour moi quelque chose de familial, dans le sens pas de ma propre famille, mais de sembler retrouver une famille, quoi, quand j'ai lu Baudelaire, quand j'avais 13-14 ans, de dire ah ouais, je le comprends, enfin il me fascine, il me fait voyager, je sens une proximité, une intimité avec cette personne que je ne connais pas. Et après, ça n'a jamais cessé. Je me suis toujours j'ai toujours trouvé dans les poètes une forme de famille, de grand frère ou de père ou de mère ou de sœur, comme ça, quelque chose de reconnaissance intime de ce que j'avais en moi, de ce que je pouvais pas forcément exprimer, et que je retrouvais de manière très tangible chez toutes ces personnes.
Nous sommes avec Arthur Ashe, le soleil de Platon, sur France Inter, et je vous propose une première pause musicale avec M, ma mélodie.
J'aimerais trouver les mots justes, les mots qu'il faut. Tous les mots sont démodés. Tu sais, là où je crie, je cherche encore.
C'était M, ma mélodie.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Arthur Ashe, et quelle joie, sous le soleil de Platon, pour parler de la poésie et se demander si une vie sans poésie est possible. Alors avant la pause musicale, on parlait de résonance, de caisse de résonance, de contact. Et je dois avouer aux auditeurs que on vous a envoyé sur votre téléphone un poème que vous avez récemment écrit pour la naissance de votre fille qui a moins d'un an. Est-ce qu'on pourrait peut-être l'entendre ?
C'est des petites pastilles, en fait, que j'écris pendant un petit peu avant, juste après l'accouchement.
Ouais.
Mais vraiment quelques heures après. Du coup, bon, ça c'est... Donc il y a avant, pendant et après, quoi. Ça c'est le bain, c'est avant, donc. Ta mère prend un bain. C'est comme si l'océan voulait nager, si un nuage désirait connaître l'humidité. Donc, un océan prend un bain, admettons. L'esprit du magnifique animal femelle se perd dans d'hypnotiques visions. Baleine heureuse qui rôde à distance de l'île mystérieuse, effectivement. Dans le monde réel, en cet instant même, des cétacés contournent une lagune, dont l'immense plage déserte, nue sous la lune nette. accueille des espèces préhistoriques qui se prélassent dans l'eau tiède. C'est là, je le crains, d'où nous venons tous, nous, les anciennes créatures marines. Toi qui flottes dans la mer maternelle, ta mère qui flotte dans le bain depuis 2 heures. Vous savez tout ça très bien. Tu en sais déjà plus que moi. N'oublie pas de m'apprendre à vivre.
Merci Arthur Racha, c'était avant ?
Ouais. Et après, j'en lis juste un tout petit cours qui est en dessous, là je tombe dessus par hasard, c'est de la poche des eaux.
On est beaucoup dans la joie liquide pour l'instant.
Ouais. La femme très douce mais impitoyable a enfoncé délicatement ses doigts dans le sexe de mon amour. Les doigts vicieux ont remonté le long de la source, puis d'une précise estocade, ont fait exploser la digue aquatique. L'eau du ventre a ruisselé sur les cuisses de mon amour, ce qui a annoncé à tous les prémices du cyclone.
Merci beaucoup Arthur H. Comment s'appelle votre fille ?
Circé.
Ah ben voilà. Mais ouais. Alors, vous parlez beaucoup d'ailleurs dans vos chansons, parfois en tout cas de beauté grecque. Il y a cette idée aussi comme ça, peut-être qu'on vient de l'eau. D'ailleurs parfois dans nos émotions de joie, on a l'impression quelque chose de liquide. Et à mon avis c'est pas indifférent à la question du son, parce qu'au fond quand on est dans l'eau, le monde est surtout un monde de son, et quand on est dans le monde intra-utérin, on entend qu'il y a que des sons en fait, il y a pas encore d'image, je crois qu'il y a même pas encore d'odeur. Donc finalement tout commence par ces sons qu'on évoquait tout à l'heure, ces espèces de vibrations que peut-être vous essayez de retrouver dans la musique des mots ou la musique des chansons. Quand je vous écoute nous offrir ce cadeau de ces poèmes, je me dis aussi que peut-être la poésie, c'est le contraire de l'ironie.
Ouais, dans un sens, oui. Mais la poésie, c'est, en fait, c'est tout ce qu'on veut. Du coup, moi, j'aime bien la poésie très ironique aussi, hein, très rentre-dedans, très, très insolente aussi.
Humoristique, vous pensez à quoi, par exemple ?
Oh, des textes de Ginsberg ou des trucs comme ça, très sarcastiques, j'aime bien aussi. Mais après, j'avoue que j'ai une préférence pour la poésie élémentaire, justement, qui parle des éléments, qui parle de... Vous parliez de l'eau. Voilà, l'eau, c'est quelque chose qui... Un truc, un forme, enfin, dont on... Qui est tellement quotidien, dont on s'en fout complètement. Et en même temps, ça reste quelque chose de complètement magique, et ça reste quelque chose qui nous constitue complètement, et ça reste un élément... Moi, je suis beaucoup dans l'idée de régénération, et de remise à niveau, d'espèce de printemps perpétuel, quoi. Et l'eau, ça participe de ça. L'eau est... absolument magique. Et du coup, si on y prête attention, c'est quelque chose qui nous fait vraiment énormément de bien, parce que tout simplement, ça nous fait connecter avec ce qu'on est vraiment, quoi.
Vous pensez qu'il y a quelque chose de dans la joie de proprement fluide ?
Bah oui, oui, certainement. Oui, que le fluide étant le contraire du blocage, c'est sûr que la joie est un phénomène très très fluide. Ouais, bien sûr.
D'ailleurs, vous m'avez fait rire dans une interview où quelqu'un, je sais plus qui, vous demandait « Mais alors, est-ce qu'il y a une souffrance comme ça du créateur ? Est-ce que c'est dur ?» Et vous avez répondu « Non, non, c'est pas dur, ça vient, c'est bien, c'est le reste qui est dur. »
Ouais. Ah oui, oui, non, mais la création, non, c'est vraiment pas dur. Alors, ça, c'est vraiment jouissif, quoi. C'est très jouissif. Après, c'est certain que quand on a, disons, l'ambition un peu bizarre de faire incarner ses rêves, c'est sûr qu'il y a toujours un moment où ça coince. Il y a toujours un moment où ça coince, quoi, putain. Bon, peut-être que des fois, il y a des moments où ça coince pas, mais alors ça, j'ai jamais connu, hein. Peut-être qu'il y a des gens à qui ça arrive. Et le moment où ça coince, c'est toujours assez douloureux, quand même, ça, c'est sûr.
Oui, c'est le contact, finalement, on l'a assez souvent, mais c'est la mise en forme qui peut coincer.
Bah, disons que ça s'appelle un peu la vie, quoi. C'est le rapport entre l'esprit et la matière, il n'est pas toujours fluide, quoi. Ouais.
Alors, depuis 30 ans que vous chantez, on a l'impression que, enfin, en tout cas, c'est mon impression que vous vous autorisez de plus en plus à chanter, à chanter vraiment. D'ailleurs, c'est une belle aventure, puisque au début, vous parliez presque au fond, et puis soudain, vous vous autorisez à aller très loin, et puis même à monter dans les aigus.
Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse, sur ses gants dorés, des traces
de sang, de larmes et de sueur et de sang et de sang. Elle esquive les coups, la boxeuse.
On est obligé de d'arrêter parce que mais c'est tellement beau. Moi, je vous ai découvert, je crois, il y a à peu près 30 ans avec l'album Cool Jazz. C'était que de j'adorais déjà, mais quand même que de chemin parcouru. Comment vous voyez cette espèce de libération, en fait, j'ai l'impression.
Ben, je pense que j'ai eu une grande chance, c'est d'être complètement bloqué. J'étais tellement bloqué. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à chanter, c'était plus proche du croassement du corbeau quand même. Enfin, j'arrivais pas. Enfin, c'était vrai. Là, du coup, c'était vraiment douloureux, quoi. C'était pour moi chanter, c'était. J'avais tellement envie, j'avais ça en moi, mais c'était physiquement quand même une souffrance, quoi, vraiment. Mais J'ai depuis toujours senti une espèce d'étoile qui était très loin, mais qui m'attirait. Et cette étoile, elle brillait très fort. Et c'était l'étoile, justement, de la fluidité, de la libération. Et j'ai jamais perdu des yeux, cette étoile, jamais. Enfin, des fois, je l'ai perdue un petit peu, dans des moments vraiment de désespoir. Mais qui ont jamais été si longs que ça, en fait. Et elle m'a toujours attiré, elle m'attire toujours très fort. Et je la vois briller plus fort aujourd'hui, ouais.
Dans cette chanson,
je la regarde toujours.
Magnifique, la boxeuse amoureuse, on entend en fait cette élévation, quoi. Ce que vous dites sur cette étoile, on le sent dans ces chansons comme ça. On sent aussi comme une forme, je dirais, d'abandon. Est-ce que la poésie, c'est s'abandonner?
Oui, complètement. Ouais. Je trouve que c'est peut-être un des mots qui décrit le mieux la poésie, parce que s'abandonner à tout, en fait, à la vie, à son subconscient aussi, à l'inspiration, quelque chose qui nous dépasse. Mais on peut pas faire ça si on tient le truc, si on serre trop, quoi. Donc on est obligé de s'abandonner, en fait. Je t'équinoxe, je te poète, tu me danses, je te particulier, tu me perpendiculaire et soupente, tu me visible, tu me silhouette, tu m'infiniment, tu m'indivisible, tu m'ironie, je te fragile, je t'ardente, je te phonétiquement, tu me hiéroglyphe, tu m'espace, tu me cascade, je te cascade à mon tour, mais toi, tu me fluide.
On y est, hein, à la fluidité,
ouais.
À l'abandon. Je recommande aux auditeurs qui sont quand même en vacances pour la plupart, ou bientôt en vacances, de prendre le temps, voilà, d'écouter, se prendre corps, de se laisser complètement porter, de s'abandonner. Et aussi, c'est ça la poésie, d'arrêter de vouloir comprendre, en fait. En fait, on est prisonnier, quoi, des raisonnements haïs. On n'entend pas ces résonances que là, vous nous permettez d'entendre. Alors, à propos d'abandon, je voudrais revenir sur un élément biographique que vous avez évoqué, notamment dans votre livre Fugue, paru chez Folio, qui est un élément hallucinant. C'était une autre époque, mais vous étiez, je crois que vous avez 14-15 ans, vous êtes en Guadeloupe avec votre père, Jacques Higelin, chez son ami Coluche, et vous prenez, je crois, des champignons hallucinogènes, extrêmement forts. Et puis, pour une raison qui m'échappe un peu, alors que vous dites à votre père, mais donc vous marchez dans le jardin, votre père évidemment en a pris lui aussi, enfin j'imagine.
Ouais,
vous
ouais.
êtes pieds nus, ça, vous piquez les pieds. Enfin, on imagine un truc un peu baroque, barré. Et puis vous avez une phrase bizarre du genre, mais papa, enfin vous allez me dire ce que vous avez dit exactement. J'ai pas tout le temps te suivre. Si je te suis tout le temps, je serai jamais moi-même. Et alors que fait votre père? Eh ben il vous dit ok, je te laisse. Et il vous laisse planter la nuit sous champignons hallucinogènes à 15 ans. Ça aurait pu mal finir.
Oui, c'est vrai, avec le recul, ouais. Moi, si un jour je fais ça avec mon fils et qu'il me dit je dois faire mon chemin seul, sinon je serai jamais moi-même, ce que j'ai dit, je pense que je resterai un peu à côté, je vérifierai quand même un petit peu, j'aurai une attention, quoi, ouais. Bien sûr, après, c'était un moment très libérateur pour moi, puisque deux jours après, j'ai fait une fugue, donc j'ai arrêté le, le lycée, tout ça, je suis resté là-bas. Mais c'était un moment effectivement un peu dangereux, ouais, c'est sûr. C'était un peu dangereux.
Parce que ça a eu des conséquences importantes, puisque c'est suite à ça qu'il y a eu cette fugue, puis que vous avez arrêté le lycée en seconde, puis que vous êtes parti aux États-Unis dans une un peu plus tard dans une école de jazz, en arrivant dans un pays sans, je crois, sans connaître la langue.
Ouais.
Ça fait quand même beaucoup de beaucoup d'expériences.
Ben, disons que la solitude, parfois, elle est très créatrice. J'en ai vraiment, je connais bien la solitude, comme j'aime bien, mais là, c'est vrai que parfois, c'était une solitude qui était un peu trop extrême, ouais.
Alors, justement.
Entre la solitude et l'isolement, c'est pas la même chose. Là, j'étais souvent isolé, en fait, au lieu d'être seul.
Vous voulez, peut-être vous étiez isolé au sens d'une souffrance, notamment adolescente, peut-être isolée aussi dans ce lycée. Vous racontez dans ce livre que suite à cette expérience, vous allez cesser de voir les deux seuls amis que vous avez, mais peut-être devient une solitude choisie.
C'était juste avant, en fait. Avant, j'avais déjà choisi l'isolement, parce que je me disais, comme j'étais quelque part ambitieux, mais ambitieux spirituellement, en fait, et qu'avec mes copains, on glandait vraiment très très fort, je me suis dit, bon, si je passe ma vie, j'avais une vision un peu radicale de la vie, comme ça, si je traîne avec eux, je vais jamais rien faire de ma vie, j'avais envie de créer, faire quelque chose, mais je savais pas quoi. Du coup, du jour au lendemain, j'ai arrêté de leur parler, en fait. Du coup, j'étais très isolé, là.
Alors justement, on va vous écouter lire à la Maison de la Poésie votre propre texte à ce sujet.
J'avais 15 ans, et un mois plus tôt, j'avais fugué. Ça avait été beaucoup plus simple que je ne le croyais. On était à l'aéroport de Pointe-à-Pitre pour rentrer à Paris, et j'avais fermement pris ma décision. Deux jours avant, il s'était passé une chose prodigieuse. Et après cette chose, je ne pouvais plus revenir en arrière. Il m'était désormais impossible de retourner au lycée où j'étais isolé et malheureux. J'avais cessé sur un coup de tête de fréquenter mes deux seuls amis. Je m'asseyais loin d'eux, je ne leur parlais plus. Je séchais les cours plusieurs fois par semaine. J'avais également arrêté d'étudier car, étant myope, sans le savoir, je ne distinguais jamais rien au tableau noir. Comme ma mère, 25 ans auparavant, j'avais la sensation de perdre un temps précieux.
Alors, on entend votre fugue, qui fait
début,
écho
ouais.
à la fugue de votre mère.
Ouais, ouais.
Et dans ce très très joli petit livre, il y a trois fugues qui s'entrelacent.
Ouais.
Une fugue de Bach,
inachevée,
je crois, celle de votre mère et la vôtre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, cet entrelacement de fugues, ce que vous avez voulu faire avec ce livre, et puis peut-être aussi, est-ce que c'est pas une définition de la poésie, au fond, l'art de la fugue?
Oui, complètement. Ouais. Mais en fait, ma mère m'a raconté il y a peu de temps, 2-3 ans, cette fugue qu'elle a fait à 18 ans, que j'ai trouvé absolument rocambolesque, aventureuse et merveilleuse, enfin merveilleuse, dure, quand même âpre, mais fabuleuse, quoi. C'est-à-dire qu'elle était une famille ouvrière à Argenteuil, un monde assez clos, assez fermé. Et elle a décidé de partir, et ils étaient 4-5 adolescents, comme ça, elle avait 18 ans, il y a des plus jeunes et des plus vieux, ils voulaient partir à Tahiti, parce qu'ils avaient cette idée extrêmement naïve qu'à Tahiti, ils pourraient vivre en faisant l'amour, en cueillant des fruits sur les arbres, en vivant nu, sans adultes, c'est le truc. Mais c'était compliqué de partir à Tahiti, parce qu'ils avaient juste pas d'argent du tout, quoi, ils avaient rien. Du coup, ils se sont dit, on va d'abord aller en Corse, et de la Corse, on pourra construire un bateau qui nous mènera à Tahiti. Voilà. Pour vous dire l'ébullition du cerveau de ces personnes. Et donc, ils sont quand même arrivés à partir en Corse. Et là, ils sont restés un mois dans le maquis, cachés, en fait, parce qu'ils avaient peur que les gendarmes les retrouvent. Et je trouvais cette petite bande d'ados de banlieue, là, qui n'avait jamais rien vu, rien connu, se retrouver tout seul dans le maquis pendant un mois.
Un peu comme vous, beaucoup plus tard.
Ouais, j'ai trouvé ça tellement beau, quoi. Je voulais vraiment, voilà, c'était ma mère, en plus, c'est son en zéro de son individualité, quoi. Je voulais vraiment raconter cette histoire. Et puis après, évidemment, ma propre fugue avec ces champignons hallucinogènes rentrait en résonance. Et puis, je suis très amoureux de Jean-Sébastien Bach. Du coup, comme principe narratif, j'ai décidé de raconter l'histoire de ma mère à Jean-Sébastien Bach, qui existe dans un autre monde et qui continue à avoir cette production délirante de musique. Sauf qu'il a besoin de textes, il a besoin d'histoires comme trame pour ses compositions. Donc il me demande, il vient d'un autre monde, et il me demande de lui raconter ces histoires-là. Quoi. Voilà, c'est ça le lien.
Voilà, donc la poésie et puis la vie aussi peut-être, comme art de la fugue. Je vous propose maintenant d'écouter une de vos chansons, L'Avalanche. C'était Arthur H et le sublime L'Avalanche.
France Inter.
Azur, nos bêtes sont bondées d'un cri. Je m'éveille songeant aux fruits noirs de la Nive dans sa cupule verruqueuse et tronquée. Saint John Perse.
Tu te mets toujours les fesses à l'air pour citer Saint John Perse.
Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Arthur H sur France Inter. Alors voilà, on a entendu L'Avalanche. Là aussi, ça monte bien dans les aigus. Et ouais. Pour moi, c'est comme le spirituel qui est clos. Au cœur de la matière.
Ouais, c'est sûr que la musique a un côté un peu magique dans le sens premier du terme, où ça relie les différents mondes, les différentes dimensions.
Alors, hors piste, il est question de hors piste. Peut-être, quand on entend une chanson comme ça, il y a une technique, c'est quand même maîtrisé. Et en même temps, ce qui est beau, c'est une forme d'immaîtrise et d'abandon qu'on a évoqué tout à l'heure. Finalement, dans votre vie, dans votre composition, dans votre existence, comment vous voyez ce rapport de la maîtrise et de l'abandon ?
Ben, c'est vrai que c'est quelque chose qui passe tout simplement peut-être par le jeu J-E-U, jouer, quoi, qu'on joue. C'est vrai que les enfants, peut-être, devraient être nos modèles pour plein de choses, notamment le jeu. Ils se posent pas de questions, ils inventent des personnages, ils sont dans leur propre excitation, ils sont dans leur propre joie. C'est des bons exemples quand même à suivre.
Le jeu JEU pour devenir un, pour oser être un jeu JEU.
Ouais, puis après la maîtrise, c'est pas quelque chose. Là, ce morceau-là, je l'ai fait pratiquement tout seul dans une toute petite pièce. À part la batterie qu'on a envoyé à un batteur anglais qui se trouvait être le batteur de Portishead et de Radiohead. J'ai dit juste ça pour frimer, c'est tout.
Ça marche bien.
Et sinon, je me suis pas posé trop de questions. J'ai mon pote ingénieur du son, j'ai fait des arrangements et tout ça, dans un esprit de jeu. La maîtrise, c'est peut-être quelque chose qui vous tombe dessus sans que vous en rendez compte, mais ça doit pas empêcher cette espèce de surprise perpétuelle du jeu, quoi.
Ouais. On pourrait dire le contraire, d'ailleurs. C'est puisqu'on est musicien, qu'on maîtrise un peu, c'est l'immaîtrise qui aussi nous tombe dessus comme une grâce.
Bah ouais, puis j'ai l'impression en plus que c'est ça que les gens les aiment bien, parce que c'est vrai qu'il y a des choses très maîtrisées qui sont fascinantes, mais peut-être on a besoin d'un peu de chaos quand même pour rigoler.
Ouais, et d'ailleurs, rigoler c'est important. Vous m'avez un peu repris tout à l'heure quand je vous disais « oui, la poésie c'est l'arrachement à l'ironie », en disant « oui, mais il y a aussi beaucoup d'humour ». Et d'ailleurs, c'est assez rare d'y arriver, notamment de faire des belles chansons drôles, et vous l'avez fait plusieurs fois, notamment avec ceci. Voilà, donc on entend bien ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il fallait aussi savoir se marrer, avoir ce sens du jeu. Je rappelle quand même pour nos auditeurs, il y a aussi plein de chansons drôles de vous, comme La caissière est super. Là, dans celle-là, Dancing with Madonna, c'est l'histoire d'un mec qui arrive chez lui un peu crevé, il allume la télé, et il se met à danser comme un taré dans son salon en écoutant Madonna.
Ouais.
Ça met bien la pêche, et la poésie, c'est aussi ça, je crois.
Bah oui, bien sûr.
Je vous propose maintenant un petit quiz. Alors, je demande des réponses courtes, il n'y a pas de piège, on va essayer d'être hors piste, justement. Alors, Arthur H., Rimbaud ou Baudelaire ?
Rimbaud ou Baudelaire ? Baudelaire.
Booba ou Nekfeu ?
Boukfeu.
Absolu ou relatif ?
Relatif.
Le cul ou le sexe ?
Le sexe.
Le cool jazz ou la cold wave ?
Le cool wave.
L'amour du risque ou le sens du risque ?
L'amour du risque.
Jim Morrison ou Serge Gainsbourg ?
Comme toutes les autres réponses, Serge Morrison.
Je vais vous obliger à trancher là. joie ou bonheur ?
Joie.
Ouais, parce que le bonheur n'est pas possible ?
Je trouve que la joie c'est plus puissant quand même.
Et c'est surtout compatible avec le malheur ?
Ouais, mais avec le bonheur aussi.
Est-ce que vous pensez que les plus grandes joies sont des joies contrariées ? C'est-à-dire qu'en fond, on sait qu'on a plein de raisons de ne pas être heureux, parce qu'il y a des injustices, parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'il y a des humiliations, mais la joie est là quand même, qu'elle est toujours une joie quand même.
Ouais, c'est vrai que c'est une limitation, mais je trouve que c'est incroyable. Mais on peut trouver de la joie dans tout, en fait. C'est fou.
Ouais. Vous avez eu dans votre enfance quelques bonnes fées qui se sont penchées sur votre berceau. Ça n'arrive pas à tous les enfants. Il y avait par exemple Barbara, une amie de vos parents, et puis Brigitte Fontaine. Comment vous le voyez avec le recul, le fait d'avoir eu Barbara et Brigitte Fontaine qui vous chantent des berceuses pour vous endormir ?
Ah, c'est vrai que pour moi, la proximité avec Brigitte Fontaine depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment une bénédiction, quoi, parce que c'est quand même une fée sorcière absolument magnifique et très très inspirante, Brigitte. Très très touchante, très inspirante, très vibrante. Elle est vraiment, c'est vraiment un être étincelant, quoi. Ouais, j'ai de la chance.
Et Barbara ?
Barbara, je m'en rappelle pas trop, sinon qu'elle m'avait promis qu'elle m'offrirait un vélo qu'elle m'a jamais offert. Et d'ailleurs, la seule fois, je l'ai revue longtemps après. On en a parlé de cette histoire dramatique de vélo. Mais oui, c'est, on a besoin de présence comme ça intérieure en nous qui nous inspire, qui sont comme des êtres qui sont là pour nous, en fait. On ne sait pas comment.
Dans la chanson que j'évoquais, la Cool Jazz, il y a au moins 30 ans, il y avait cette phrase marrante, elle m'avait marqué à l'époque. Fred était comme un équilibriste, un mec pas banal qui aimait les risques.
Ouais.
Vous vous souvenez?
Oui, oui, c'est parce que j'avais lu, j'étais assez fan de faits divers macabres à l'époque, et puis j'avais lu un fait divers où un mec avait tué sa petite copine en lui tapant, enfin, en cassant sa guitare sur la tête. Et je me dis, ah putain, un peu, un instrument. Sûrement, il a séduit en jouant de la guitare, et puis un jour, je sais pas pourquoi, il lui a tapé sur la tête avec sa guitare, elle est morte, c'est une histoire, bon, dramatique. Mais je me dis, ah oui, tuer qu'un instrument de musique, ça c'est pas mal quand même. Ouais. Je fais une chanson.
Il y a une scène qu'on connaît tous, qui a fait beaucoup de buzz sur Internet, et qui peut-être nous permettra, en cette fin d'émission, de questionner ce que c'est que la poésie, et peut-être aussi pourquoi, la plupart d'entre nous, souvent, nous ne sommes pas capables de poésie. Vous savez, c'est l'histoire de Joshua Bell, un des plus grands violonistes du monde, qui se met à jouer dans le métro et qui joue trois quarts d'heure et en fait, personne ne s'arrête. Mmh. Personne ne le remarque. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Oh là, c'est tout ça assez riche comme histoire. Là, j'ai pas de choses géniales à dire là-dessus, sinon que ça m'étonne pas quand même. Je suis pas tellement surpris par ça. Ouais. Quand j'étais à Bali, j'ai vu des cérémonies, j'étais très très fasciné, enfin très touché par la musique balinaise, et il y a des gens qui répètent un peu partout dans les villages, et j'ai vu des gens passer autour, à côté des files de touristes. Moi, j'étais fasciné, je me dis, putain, c'est tellement beau cette musique, c'est tous les gens, quoi. Il y a les grands-mères, les enfants, les adultes, tout le monde est là et ils ont des masques, des costumes, ils font des trucs. Et j'ai vu vraiment littéralement, et c'est à plusieurs reprises, des touristes passer devant sans même jeter un œil, quoi. Sans même tourner la tête.
Là, c'était peut-être pas prévu dans le programme.
Je me suis dit, ah ouais, le manque d'intention, on voit vraiment pas la même chose du monde, quoi. Moi, personnellement, je suis peut-être être un peu orgueilleux, hein, mais si j'avais vu ce violoniste-là, je pense que je me serais arrêté, sans savoir qui c'est, hein. Mais au moins, je me serais arrêté quelques minutes parce que j'aurais été sûrement fasciné par son, et la qualité de ce qu'il jouait, sûrement, parce que c'était comme un grand, grand musicien, quoi. Mais c'est vrai que ça fait réfléchir quand même sur ce qu'on est capable de voir ou d'entendre.
Parce que quand on dit, voilà, la poésie sauvera le monde, la beauté sauvera le monde, encore faudrait-il qu'on soit capable de la remarquer.
Ouais, j'étais très touché quand j'ai entendu quelque part que l'attention, c'est de l'amour. L'attention, c'est de l'amour. Ça, c'est vraiment un vrai truc à mettre en route dans sa vie. Moi, je suis pas la personne la plus attentive, mais tout le temps, mais je trouve que l'attention, c'est de l'amour. Ouais.
C'est ce que dit, écrit magnifiquement Simone Veil dans un livre « La pesanteur et la grâce » que je recommande à tout le monde sur la plage cet été, « La pesanteur et la grâce ». L'attention, c'est de l'amour. L'attention à quoi?
Bah, à ce qui est sous nos yeux, à ce qui vit, au moment présent. Porter attention, c'est-à-dire justement, si tu passes à côté d'un grand violoniste, tu t'arrêtes pour l'écouter, quoi. C'est de l'attention. Ouais. Donc, du coup, c'est de l'amour. Tu te donnes de l'énergie. Et puis, lui, il te donne aussi, les grands musiciens, comme ça, classiques, ont le pouvoir de t'emmener très, très loin, quoi.
On nous apprend pas ça à l'école, hein. On nous apprend, par exemple, à être concentré. Et quand on est concentré, en fait, paradoxalement, il faudrait le dire au prof, on n'est pas attentif. Les psychologues ont travaillé cette distinction entre une concentration qui est focalisée et une attention qui s'appelle attention partagée. C'est-à-dire qu'en fait, moins je suis concentré, plus je suis attentif, justement.
Mais on ne nous apprend même pas à être concentré. Hein. On ne nous apprend rien du tout. On nous file des trucs et on se débrouille avec. C'est l'attention, la méditation, la concentration, ça devrait être les bases de l'éducation avant d'apprendre quoi que ce soit. Ça serait pragmatique. Du coup, l'éducation en Occident n'est pas du tout pragmatique. Pas du tout pragmatique.
Voilà, c'est là, merci beaucoup Arthur H. On entend que ce pragmatisme est aussi une éducation merveilleuse. C'est un idéalisme en même temps qu'un réalisme. Pour vous remercier de nous avoir accompagnés ce matin, en poésie sous le soleil de Platon. Je vais essayer de résumer pour nos auditeurs votre philosophie de la vie. Je dirais qu'elle est à la fois sensuelle et spirituelle, qu'elle est à la fois très matérielle, très ancrée dans un corps, une voix, et en même temps elle décolle, elle s'envole, elle plane. J'ai aussi l'impression qu'elle est quand même très très sexuelle. Hein. Votre manière notamment de donner vie à ce prendre corps, j'invite tous les couples cet été à faire cette expérience, hein, de mettre prendre corps et de s'abandonner, voilà.
Ah, oui, oui.
S'abandonner à l'autre, s'abandonner au monde, s'abandonner au mystère. La poésie que vous avez laissé entendre est une manière aussi de s'ouvrir à l'inattendu, mais j'ai l'impression que pourtant, ce que vous nous dites, c'est qu'on peut quand même se préparer. On peut se préparer à n'être pas prêt, c'est-à-dire être dans un état comme ça d'éveil, de disponibilité. Je précise que sortira le 3 septembre votre nouvel album, un album concept, mort d'un chanteur populaire... Mort prématuré d'un chanteur populaire dans la force de l'âge. Et cette émission a été réalisée par François Audouin, avec à la technique Arnaud Caillé, programmation musicale Valentine Chedebois, illustration sonore Romain Couturier. Elle a été préparée, merci beaucoup, par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous retrouve tous les jours à 10h sous le soleil de Platon. À suivre après le Flash Info, rendez-vous Place du Marché avec Antoine Lee.
Bonjour Charles, aujourd'hui nous sommes à Fécamp en Seine-Maritime. Nous allons parler de ces marins normands qui pêchaient autrefois le poisson au large du Canada. Et on rencontrera un naturaliste qui s'oppose au tourisme de masse.
Eh bien n'oubliez pas qu'on l'a vu avec Arthur H, la joie est liquide, c'est une joie de poisson. Merci Antoine, à tout à l'heure.